Alain, propos sur le bonheur. Chapitre 47. Aristote. Faire et non pas subir. Tel est le fond de l'agréable. Mais parce que les sucreries donnent un petit plaisir sans qu'on ait autre chose à faire qu'à les laisser fondre, beaucoup de gens voudraient goûter le bonheur de la même manière et sont bien trompés. On reçoit peu de plaisir de la musique si l'on se borne à l'entendre et si on ne la chante point du tout, ce qui faisait dire à un homme ingénieux qu'il goûtait la musique par la gorge et non point par l'oreille. Même le plaisir qui vient des beaux dessins est un plaisir de repos et qui n'occuperait pas assez si l'on ne barbouillait soi-même ou si l'on ne se faisait une collection. Ce n'est plus seulement juger, c'est rechercher et conquérir. Les hommes vont au spectacle et s'y ennuient plus qu'ils ne veulent l'avouer. Il faudrait inventer, ou tout au moins jouer, ce qui est encore inventé. Chacun a souvenir de ces comédies de société, où les acteurs ont tout le plaisir. Je me souviens de ces heureuses semaines où je ne pensais qu'à un théâtre de marionnettes. Mais il faut dire que je taillais l'usurier, le militaire, l'ingénu et la vieille femme dans des racines, avec mon couteau. D'autres les habillaient. Je ne suis rien des spectateurs. La critique leur était laissée. Plaisir maigre, mais encore plaisir par le peu qu'ils inventaient. Ceux qui jouent aux cartes inventent continuellement et modifie le cours mécanique des événements. Ne demandez pas à celui qui ne sait point jouer s'il aime le jeu. La politique n'ennuie point dès que l'on sait le jeu, mais il faut l'apprendre. Ainsi, en toute chose, il faut apprendre à être heureux. On dit que le bonheur nous fuit toujours. Cela est vrai du bonheur reçu, parce qu'il n'y a point de bonheur reçu. Mais le bonheur que l'on se fait ne trompe point. C'est apprendre, et l'on apprend toujours. Plus on sait et plus on est capable d'apprendre. D'où le plaisir d'être latiniste, qui n'a point de fin, mais qui plutôt s'augmente par le progrès. Et le plaisir d'être musicien est de même. Et Aristote dit cette chose étonnante, que le vrai musicien est celui qui se plaît à la musique, et le vrai politique, celui qui se plaît à la politique. Les plaisirs, dit-il, sont les signes des puissances. Cette parole retentit par la perfection des termes qui nous emportent hors de la doctrine. Et si l'on veut comprendre cet étonnant génie, tant de fois et si vainement renié, c'est ici qu'il faut regarder. Le signe du progrès véritable en toute action est le plaisir qu'on y sait prendre. D'où l'on voit que le travail est la seule chose délicieuse et qui suffit. J'entends travail libre, effet de puissance à la fois et source de puissance. Encore une fois, non point subir, mais agir. Chacun a vu de ces maçons qui se construisent une maisonnette à temps perdu. Il faut les voir choisir chaque pierre. Ce plaisir est dans tout métier, car l'ouvrier invente et apprend toujours. Mais outre que la perfection mécanique apporte l'ennui, c'est un grand désordre aussi quand l'ouvrier n'a point de part à l'œuvre et toujours recommence, sans posséder ce qu'il fait, sans en user, pour apprendre encore. Au contraire, la suite des travaux et l'œuvre promesse d'œuvre est ce qui fait le bonheur du paysan, j'entends libre et maître chez lui. Toutefois, il y a grande rumeur de tous contre ces bonheurs qui coûtent tant de peine, et toujours par la funeste idée d'un bonheur reçu que l'on goûterait. Car c'est la peine qui est bonne, comme Diogène dirait. mais l'esprit ne se plaît point à porter cette contradiction. Il faut qu'il la surmonte, et encore une fois, qu'il fasse plaisir de réflexion de cette peine-là. 15 septembre 1924. Chapitre 48. Heureux agriculteurs. Le travail est la meilleure et la pire des choses. La meilleure s'il est libre, la pire s'il est serf. J'appelle libre au premier degré le travail réglé par le travailleur lui-même, d'après son savoir propre et selon l'expérience, comme d'un menuisier qui fait une porte. Mais il y a de la différence si la porte qu'il fait est pour son propre usage, car c'est alors une expérience qui a de l'avenir. Il pourra voir le bois à l'épreuve et son œil se réjouira d'une fente qu'il avait prévue. Il ne faut point oublier cette fonction d'intelligence qui fait des passions si elle ne fait des portes. Un homme est heureux dès qu'il reprend des yeux les traces de son travail et les continue, sans autre maître que la chose, dont les leçons sont toujours bien reçues. Encore mieux si l'on construit le bateau sur lequel on naviguera. Il y a une reconnaissance à chaque coup de barre, et les moindres soins sont retrouvés. On voit quelquefois dans les banlieues des ouvriers qui se font une maison peu à peu, selon les matériaux qu'ils se procurent et selon le loisir. Un palais ne donne pas tant de bonheur. Encore le vrai bonheur du prince est-il de faire bâtir selon ses plans. Mais heureux par-dessus tout, celui qui sent la trace de son coup de marteau sur le loquet de sa porte. La peine alors fait justement le plaisir. Et tout homme préférera un travail difficile, où il invente et se trompe à son gré, à un travail tout uni, mais selon les ordres. Le pire travail est celui que le chef vient troubler ou interrompre. La plus malheureuse des créatures est la bonne à tout faire quand on la détourne de ses couteaux pour la mettre au parquet. Mais les plus énergiques d'entre elles conquièrent l'empire sur leurs travaux et ainsi se font un bonheur. L'agriculture est donc le plus agréable des travaux dès que l'on cultive son propre champ. La rêverie va continuellement du travail aux effets, du travail commencé au travail continué. Le gain même n'est pas si présent ni si continuellement perçu que la terre elle-même, ornée des marques de l'homme. C'est un plaisir démesuré que de charroyer à l'aise sur des cailloux que l'on a mis. Et l'on se passe encore bien des profits si l'on est assuré de travailler toujours sur le même coteau. C'est pourquoi le serf attaché à la terre était moins serf qu'un autre. Toute domesticité est supportée dès qu'elle a pouvoir sur son propre travail et certitude de durée. En suivant ces règles, il est facile d'être bien servi et même de vivre du travail des autres. Seulement le maître s'ennuiera, d'où le jeu et les filles d'opéra. C'est toujours par l'ennui et ses folies que l'ordre social est rompu. Les hommes d'aujourd'hui ne diffèrent pas beaucoup des Goths, des Francs, des Alamans et autres pillards redoutables. Le tout est qu'ils ne s'ennuient point. Ils ne s'ennuieront point s'ils travaillent du matin au soir selon leur propre volonté. C'est ainsi qu'une agriculture massive réduit à des mouvements en quelque sorte séduire l'agitation des ennuis. Mais il faut convenir que la fabrication en série n'offre point les mêmes ressources. Il faudrait marier l'industrie à l'agriculture comme on marie la vigne à l'ormeau. Toute usine serait campagnarde. Tout ouvrier d'usine serait propriétaire d'un bien au soleil et cultiverait lui-même. Cette nouvelle salante compenserait l'esprit remuant par l'esprit rassis. Ne voit-on pas un essai de ce genre dans le maigre jardin de l'aiguilleur qui fleurit sur les rives du trafic aussi obstinément que l'herbe pousse entre les pavés. 28 août 1922. Chapitre 49. Travaux. Dans les souvenirs de la maison des morts, Dostoïevski nous fait voir des forçats au naturel. Toutes les hypocrisies de luxe, si l'on peut dire, sont enlevées. Et quoiqu'il leur reste encore des hypocrisies de nécessité, le fond de l'être humain apparaît quelquefois. Les forçats travaillent, et souvent leurs travaux sont assez inutiles. Par exemple, ils démolissent un vieux bateau pour faire du bois, dans un pays où le bois ne coûte presque rien. Ils le savent bien. Aussi, tant qu'ils travaillent tout le long du jour, sans aucune espérance, ils sont paresseux, tristes et maladroits. Mais si on leur donne une tâche pour la journée, tâche lourde et difficile, aussitôt les voilà adroits, ingénieux et joyeux. Ils le sont encore plus dès qu'il s'agit d'un travail réellement utile comme d'enlever la neige. Mais il faut lire ces pages étonnantes où l'on trouve une description vraie et sans commentaire. On y voit que le travail utile est par lui-même un plaisir, par lui-même, et non par les avantages qu'on en retirera. Par exemple, ils font vivement et gaiement un travail déterminé, après lequel ils se reposeront. Cette idée qu'ils gagneront peut-être une demi-heure à la fin de la journée les met en mouvement et tous d'accord pour faire vite. Mais une fois ce problème posé, c'est le problème lui-même qui leur plaît, et le plaisir d'inventer, de réaliser, de vouloir et puis de faire l'emporte de beaucoup sur le plaisir qu'ils se promettent de cette demi-heure qui ne sera toujours qu'une demi-heure de bagne. Et j'imagine que si elle est passable, ce sera encore par le souvenir tout chaud de ce travail si vivement mené. Le plus grand plaisir humain est sans doute dans un travail difficile et libre, fait en coopération, comme les jeux le font assez voir. Il y a des pédagogues qui rendraient les enfants paresseux pour toute la vie, simplement parce qu'ils veulent que tout le temps soit occupé. L'enfant s'habitue alors à travailler lentement, c'est-à-dire à travailler mal. Le résultat est une espèce de fatigue accablante, continuellement mêlée au travail, au lieu que si vous séparez le travail et la fatigue, tous deux sont agréables. Les travaux languissants ressemblent à ces promenades que l'on fait seulement pour marcher et pour prendre l'air. On est fatigué tout le temps de la promenade. On ne l'est plus quand on rentre. Tandis que dans le travail le plus pénible, on se sent infatigable et léger. Ensuite, on jouit d'une détente parfaite. Et enfin, d'un bon sommeil. 6 novembre 1911. Chapitre 50. Œuvre. Une œuvre commencée parle bien plus haut que les motifs. Il y a des motifs de coopérer et bien forts. On peut les éclairer et retourner dans son esprit pendant toute une vie et ne point coopérer. Mais la coopérative en croissance appelle le fondateur. Et les pierres d'attente en toute œuvre sont de suffisantes raisons pour la continuer. Heureux donc qui voit dans le travail de la veille les marques de sa propre volonté. On dit que les hommes visent toujours quelque bien, mais je les vois paresseux devant une fin raisonnable. Leur imagination n'a point tant de force qu'elle puisse les intéresser à une œuvre qui n'est encore rien dans le monde. C'est pourquoi il y a tant d'œuvres devant nous que nous jugeons bonnes et que nous ne faisons pas. L'imagination nous déçoit de plus d'une manière, mais principalement parce que nous la croyons annonciatrice par cette agitation présente qu'elle nous fait sentir. Mais ce stérile mouvement se termine à lui-même. L'agitation est toujours au présent et les projets sont toujours au futur. D'où cette parole du paresseux « je ferai ». Mais la parole de l'homme est plutôt « je fais », car c'est l'action qui est grosse d'avenir. Imprévisible de l'avenir, et aussi bien dans les œuvres, car l'avenir que l'œuvre nous découvre n'est jamais celui que nous pensions, et toujours plus beau. Mais cela, personne ne peut le croire, et les songes creux vont répétant que leurs projets sont bien plus beaux que les œuvres des autres. Regardez pourtant ces hommes occupés et heureux, tous ils courent à l'œuvre commencée, qui est épicerie en accroissement ou collection de timbres. Chacun sait qu'il n'y a point d'œuvre frivole dès qu'elle est en train. Je les vois tous là d'imaginer et avides de percevoir leur pierre d'attente. Une broderie à ses premiers points ne plaît guère, mais à mesure qu'elle avance, elle agit sur notre désir avec une puissance accélérée. C'est pourquoi la foi est la première vertu et l'espérance n'est que la seconde, car il faut commencer sans aucune espérance et l'espérance vient de l'accroissement et progrès. Les projets réels ne poussent que sur l'œuvre. Je ne crois point du tout que Michel-Ange se soit mis à peindre parce qu'il avait toutes ses figures dans la tête, car il ne dit devant la nécessité que ce mot, mais ce n'est point mon métier. Seulement il se mit à peindre et les figures se montrèrent. Et c'est cela qui est peindre, j'entends, découvrir ce que l'on fait. On dit bien que le bonheur nous fuit comme une ombre, et il est vrai que le bonheur imaginé, nous ne l'avons jamais. Le bonheur de faire n'est nullement imaginé ni imaginable. Il n'est jamais que substantiel. Nous n'en pouvons former l'image. Et comme savent les écrivains, il n'y a pas de beau sujet. Je dirais même plus. Je dirais qu'il faut se méfier du beau sujet, mais aussitôt s'en approcher et s'y mettre, afin de réduire le fantôme, ce qui est déposer l'espérance et se donner la foi. Défaire pour refaire. Et c'est sans doute par où l'on peut comprendre les différences étonnantes qu'il y a toujours entre le roman et l'aventure véritable qui en a été l'occasion. Peintre, ne t'amuse pas au sourire du modèle. 29 novembre 1922. Chapitre 51. Regarde au loin. Au mélancolique, je n'ai qu'une chose à dire. Regarde au loin. Presque toujours, le mélancolique est un homme qui lit trop. L'œil humain n'est point fait pour cette distance. C'est aux grands espaces qu'il se repose. Quand vous regardez les étoiles ou l'horizon de la mer, votre œil est tout à fait détendu. Si l'œil est détendu, la tête est libre, la marche est plus assurée. Tout se détend et s'assouplit jusqu'aux viscères. Mais n'essaie point de t'assouplir par volonté. Ta volonté en toi, appliquée en toi, tire tout de travers et finira par t'étrangler. Ne pense pas à toi. Regarde au loin. Il est très vrai que mélancolie est maladie, et le médecin en peut quelquefois deviner la cause et donner le remède. Mais ce remède ramène l'attention dans le corps, et le souci que l'on a de suivre un régime en détruit justement l'effet. C'est pourquoi le médecin, s'il est sage, te renvoie au philosophe. Mais lorsque tu cours au philosophe, que trouves-tu? Un homme qui est trop, qui pense en myope, et qui est plus triste que toi. L'État devrait tenir école de sagesse comme de médecine. Et comment? par vraie science qui est contemplation des choses, et poésie grande comme le monde. Car la mécanique de nos yeux, qui se reposent aux larges horizons, nous enseigne une grande vérité. Il faut que la pensée délivre le corps et le rende à l'univers, qui est notre vraie patrie. Il y a une profonde parenté entre notre destinée d'homme et les fonctions de notre corps. L'animal, dès que les choses voisines le laissent en paix, se couche et dort. L'homme pense. Si c'est une pensée d'animal, malheur à lui. Le voilà qui double ses maux et ses besoins. Le voilà qui se travaille de crainte et d'espérance. Ce qui fait que son corps ne cesse point de se tendre, de s'agiter, de se lancer, de se retenir, selon les jeux de l'imagination. Toujours soupçonnant, toujours épiant, choses et gens autour de lui. Et s'il veut se délivrer, le voilà dans les livres, univers fermé encore, trop près de ses yeux, trop près de ses passions. La pensée se fait une prison, et le corps souffre, car dire que la pensée se rétrécit et dire que le corps travaille contre lui-même, c'est dire la même chose. L'ambitieux refait mille fois ses discours, et l'amoureux mille fois ses prières. Il faut que la pensée voyage et contemple si l'on veut que le corps soit bien. À quoi la science nous conduira, pourvu qu'elle ne soit ni ambitieuse, ni bavarde, ni impatiente, pourvu qu'elle nous détourne des livres et emporte notre regard à distance d'horizon. Il faut donc que ce soit perception et voyage. Un objet, par les rapports vrais que tu y découvres, te conduit à un autre et à mille autres. Et ce tourbillon du fleuve porte ta pensée jusqu'au vent, jusqu'aux nuages et jusqu'aux planètes. Le vrai savoir ne revient jamais à quelques petites choses tout près des yeux. Car savoir, c'est comprendre comment la moindre chose est liée au tout. Aucune chose n'a sa raison en elle. Et ainsi, le mouvement juste nous éloigne de nous-mêmes. Cela n'est pas moins sain pour l'esprit que pour les yeux. Par où ta pensée se reposera dans cet univers qui est son domaine et s'accordera avec la vie de ton corps qui est liée aussi à toute chose. Quand le chrétien disait « Le ciel est ma patrie », il ne croyait pas si bien dire. Regarde au loin. 15 mai 1911. Chapitre 52. Voyage. En ce temps de vacances, le monde est plein de gens qui courent d'un spectacle à l'autre, évidemment avec le désir de voir beaucoup de choses en peu de temps. Si c'est pour en parler, rien de mieux, car il vaut mieux avoir plusieurs noms de lieux à citer. Cela remplit le temps. Mais si c'est pour eux et pour réellement voir, je ne les comprends pas bien. Quand on voit les choses en courant, elles se ressemblent beaucoup. Un torrent, c'est toujours un torrent. Ainsi, celui qui parcourt le monde à toute vitesse n'est guère plus riche de souvenirs à la fin ou au commencement. La vraie richesse des spectacles est dans le détail. Voir, c'est parcourir les détails, s'arrêter un peu à chacun et de nouveau saisir l'ensemble d'un coup d'œil. Je ne sais si les autres peuvent faire cela vite et courir à autre chose et recommencer. Pour moi, je ne le saurais. Heureux ceux de Rouen qui, chaque jour, peuvent donner un regard à une belle chose et profiter de Saint-Ouen, par exemple, comme d'un tableau que l'on a chez soi. Tandis que si l'on passe dans un musée une seule fois ou dans un pays à touristes, il est presque inévitable que les souvenirs se brouillent et forment enfin une espèce d'image grise aux lignes brouillées. Pour mon goût, voyager, c'est faire à la fois un mètre ou deux, s'arrêter et regarder de nouveau un nouvel aspect des mêmes choses. Souvent, aller s'asseoir un peu à droite ou à gauche. Cela change tout, et bien mieux que si je fais 100 km. Si je vais de torrent à torrent, je trouve toujours le même torrent. Mais si je vais de rocher en rocher, le même torrent devient autre à chaque pas. Et si je reviens à une chose déjà vue, en vérité elle ne saisit plus que si elle était nouvelle, et réellement elle est nouvelle. Et réellement, elle est nouvelle. Il ne s'agit que de choisir un spectacle varié et riche, afin de ne pas s'endormir dans la coutume. Encore faut-il dire qu'à mesure que l'on sait mieux voir, un spectacle quelconque enferme des joies inépuisables. Et puis, de partout, on peut voir le ciel étoilé. Voilà un beau précipice. 29 août 1906. Chapitre 53. La danse des poignards. Chacun connaît la force d'âme des stoïciens. Ils raisonnaient sur les passions, haine, jalousie, crainte, désespoir. Et ils arrivaient ainsi à les tenir en bride, comme un bon cocher tient ses chevaux. Un de leurs raisonnements qui m'a toujours plu et qui m'a été utile plus d'une fois est celui qu'ils font sur le passé et l'avenir. Nous n'avons, disent-ils, que le présent à supporter. Ni le passé, ni l'avenir ne peuvent nous accabler, puisque l'un n'existe plus et que l'autre n'existe pas encore. C'est pourtant vrai. Le passé et l'avenir n'existent que lorsque nous y pensons. Ce sont des opinions, non des faits. Nous nous donnons bien du mal pour fabriquer nos regrets et nos craintes. J'ai vu un équilibriste qui ajustait une quantité de poignards les uns sur les autres. Cela faisait une espèce d'arbre effrayant qu'il tenait en équilibre sur son front. C'est ainsi que nous ajustons et portons nos regrets et nos craintes en imprudents artistes. Au lieu de porter une minute, nous portons une heure. Au lieu de porter une heure, nous portons une journée, 10 journées, des mois, des années. L'un qui a mal à la jambe pense qu'il souffrait hier, qu'il a souffert déjà autrefois, qu'il souffrira demain. Il gémit sur sa vie tout entière. Il est évident qu'ici, la sagesse ne peut pas beaucoup, car on ne peut toujours pas supprimer la douleur présente. Mais s'il s'agit d'une douleur morale, qu'en restera-t-il si l'on se guérit de regretter et de prévoir? Cet amoureux maltraité qui se tortille sur son lit au lieu de dormir et qui médite des vengeances corses, que resterait-il de son chagrin s'il ne pensait ni au passé ni à l'avenir? Cet ambitieux, mordu au cœur par un échec, où va-t-il chercher sa douleur, sinon dans un passé qu'il ressuscite et dans un avenir qu'il invente? On croit voir le Sisyphe de la légende qui soulève son rocher et renouvelle ainsi son supplice. Je dirais à tous ceux qui se torturent ainsi, pense au présent, pense à ta vie qui se continue de minute en minute, chaque minute vient après l'autre. Il est donc possible de vivre comme tu vis, puisque tu vis. Mais l'avenir m'effraie, tu parles de ce que tu ignores. Les événements ne sont jamais ceux que nous attendions. Et quant à ta peine présente, justement parce qu'elle est très vive, tu peux être sûr qu'elle diminuera. Tout change, tout passe. Cette maxime nous a attristés assez souvent. C'est bien le moins qu'elle nous console quelquefois. 17 avril 1908. Chapitre 54. Déclamation. Quelquefois, on rencontre sur la route un spectre humain qui se chauffe au soleil ou qui se traîne vers sa maison. Cette vue de l'extrême décrépitude et de la mort imminente nous inspire une horreur insurmontable au premier moment. Nous fuyons en disant « Pourquoi cette chose humaine n'est-elle pas morte ? Elle aime encore la vie pourtant. Elle se chauffe au soleil, elle ne veut pas mourir. » Dur chemin pour nos pensées. La réflexion souvent y trébuche, se blesse, s'irrite, se jette dans un mauvais sentier. C'est bientôt fait. Comme je cherchais la bonne route, après une vue de ce genre, par discours prudents et tâtonnants, je voyais devant moi un ami tout tremblant de mauvaise éloquence, avec des feux d'enfer dans les yeux. Enfin, il éclata. « Tout est misère, dit-il. Ceux qui se portent bien craignent la maladie et la mort. Ils y mettent toute leur force. Ils ne perdent rien de leur terreur. Ils la goûtent tout entière. Et voyez ces malades. Ils devraient appeler la mort. Mais point du tout. Ils la repoussent. Cette crainte s'ajoute à leurs maux. Vous dites, comment peut-on vaincre la mort quand la vie est atroce à ce point-là? Vous voyez pourtant qu'on peut haïr la mort et la souffrance en même temps. Et voilà comment nous finirons. » Ce qu'il disait lui semblait évident absolument. Et ma foi, j'en croirais bien longtemps si je voulais. Il n'est pas difficile d'être malheureux. Ce qui est difficile, c'est d'être heureux. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'essayer. Au contraire, le proverbe dit que toutes les belles choses sont difficiles. J'ai des raisons aussi de me garder de cette éloquence d'enfer qui me trompe par une fausse lumière d'évidence. Combien de fois me suis-je prouvé à moi-même que j'étais dans un malheur sans remède? Et pourquoi? Pour des yeux de femme, peut-être ébloui ou fatigué ou assombri par un nuage du ciel. Tout au plus, pour quelques pensées médiocres, pour quelques mouvements de bile, pour quelques calculs de vanité que je supposais d'après des mimes et des paroles. Car nous avons tous connu cette étrange folie, et nous en rions de bon cœur un an après. J'en retiens que la passion me trompe. Dès que les larmes, les sanglots tout proches, l'estomac, le cœur, le ventre, les gestes violents, la contraction inutile des muscles se mêlent au raisonnement. Les naïfs y sont pris à chaque fois. Mais je sais que cette mauvaise lumière s'éteint bientôt. Je veux l'éteindre tout de suite. Cela m'est possible. Il suffit que je ne déclame point. Je connais assez la puissance de ma propre voix sur moi-même. Je veux donc me parler à moi-même tout uniment, et non point en tragédien. Voilà pour le temps. Je sais aussi que la maladie et la mort sont des choses communes et naturelles, et que cette révolte est certainement une pensée fausse et inhumaine, car une pensée vraie et humaine doit toujours, il me semble, être adapté en quelque façon à la condition humaine et au cours des choses. Et c'est déjà une raison assez forte pour ne pas se jeter en étourdi dans ces plaintes qui nourrissent la colère et que la colère nourrit. Cercle d'enfer. Mais c'est moi qui suis le diable, et c'est moi qui tiens la fourche. 29 septembre 1911. Chapitre 55. Jérémiade. Ce que je vous souhaite pour cette année qui recommence, c'est-à-dire pour le temps qu'il faut au soleil pour remonter à son plus haut et redescendre ensuite au plus bas, ce que je vous souhaite, c'est de ne pas dire et aussi de ne pas penser que tout va de mal en pis. Cette soif de l'or, cette ardeur au plaisir, cet oubli des devoirs, cette insolence de la jeunesse, ces vols et ces crimes inouïs, cette impudence des passions, ces saisons folles, enfin, qui nous apportent presque des soirées tièdes au cœur de l'hiver. Voilà un refrain vieux comme le monde des hommes. Il signifie seulement ceci. Je n'ai plus l'estomac ni la joie de mes 20 ans. Encore, si ce n'était qu'une manière de dire ce que l'on éprouve, on supporterait ce discours, comme on supporte la tristesse de ceux qui sont malades. Mais les discours ont par eux-mêmes une puissance démesurée. Ils enflent la tristesse, ils la grossissent, ils en recouvrent toutes les choses comme d'un manteau. Et ainsi l'effet devient cause. Comme on voit qu'un enfant peut bien avoir très peur de son petit camarade, qu'il a lui-même déguisé en lion ou en ours. Il est assez clair que si un homme, par naturelle tristesse, orne sa maison comme un catafalque, il n'en sera que plus triste, toute chose lui rappelant aigrement son chagrin. Même jeu pour nos idées. Si par humeur nous venons à nous peindre les hommes en noir et les affaires publiques en décomposition, ce barbouillage à son tour nous jette dans le désespoir. Et l'homme le plus intelligent est souvent celui qui se dupe le mieux lui-même parce que ses déclamations ont une suite et un air de raison. Le pire, c'est que cette maladie se gagne. C'est comme un choléra des esprits. Je connais des gens en présence de qui l'on ne peut pas dire que les fonctionnaires sont dans l'ensemble plus honnêtes et plus diligents qu'autrefois. Ceux qui suivent leur passion ont une éloquence si naturelle, une sincérité si touchante que la galerie est pour eux. Et celui qui veut être juste joue alors le rôle d'un niais ou d'un mauvais plaisant. Ainsi, la gérignade s'établit comme un dogme et fait bientôt partie de la politesse. Hier, un ouvrier tapissier, afin de soutenir une conversation préliminaire, disait tout naïvement « Les saisons sont perdues. Qui croirait que nous sommes en hiver ? Et c'est comme l'été, on ne sait plus ce que c'est. » Il disait cela après les dures chaleurs de cette année, qu'il a pourtant senti comme les autres. Mais le lieu commun est plus fort que les faits. Et méfiez-vous de vous-même, vous qui riez de mon tapissier, car tous les faits ne sont pas aussi clairs ni aussi présents au souvenir que le bel été de 1911. Ma conclusion est que la joie est sans autorité, parce qu'elle est jeune. Et que la tristesse est sur un trône, et toujours trop respectée. D'où je tire qu'il faut résister à la tristesse, non pas seulement parce que la joie est bonne, ce qui serait déjà une espèce de raison, mais parce qu'il faut être juste, et que la tristesse, éloquente, toujours, impérieuse, toujours, ne veut jamais qu'on soit juste. 4 janvier 1912. Chapitre 56. L'éloquence des passions. L'éloquence des passions nous trompe presque toujours. J'entends par là cette fantasmagorie triste, gaie, brillante et lugubre que nous déroule l'imagination selon que notre corps est reposé ou fatigué, excité ou déprimé. Tout naturellement, nous accusons alors les choses et nos semblables, au lieu de deviner et de modifier la cause réelle, souvent petite et sans conséquence. Dans ce temps où les examens commencent à s'élever au-dessus de l'horizon, plus d'un candidat travaille aux lumières, fatigue ses yeux, et ressent un mal de tête diffus. Petit mot que l'on guérit bien vite par le repos et le sommeil. Mais le naïf candidat n'y pense point. Il constate d'abord qu'il n'apprend pas vite, que les idées restent dans le brouillard et que la pensée des auteurs reste dans le papier au lieu de venir à lui. Alors, il s'attriste sur les difficultés de l'examen et sur ses propres aptitudes. Puis, portant son regard sur le passé et contemplant tous ses souvenirs à travers le même brouillard triste, il s'aperçoit, ou croit s'apercevoir, qu'il n'a pas fait grand-chose d'utile, que tout est à revoir, que rien ne s'éclaire ni ne s'ordonne. Regardant maintenant vers l'avenir, il pense que le temps est court et que le travail est bien long. Aussi revient-il à son livre, la tête entre ses deux mains, alors qu'il devrait se coucher et dormir. Le mal lui cache le remède. Et c'est justement parce qu'il est fatigué qu'il se jette au travail. Il lui faudrait ici la profonde sagesse des stoïciens, élucidée encore par Descartes et par Spinoza. Toujours défiant devant les preuves d'imagination, il devrait, par réflexion, deviner ici l'éloquence des passions et refuser d'y croire, ce qui détruirait soudainement le plus clair de son mal. Car un peu de mal de tête et de fatigue des yeux, cela est supportable et ne dure guère. Mais le désespoir est terrible et aggrave de lui-même ses causes. Voilà le piège des passions. Un homme qui est bien en colère se joue à lui-même une tragédie bien frappante, vivement éclairée, où il se représente tous les torts de son ennemi, ses ruses, ses préparations, ses mépris, ses projets pour l'avenir. Tout est interprété selon la colère, et la colère en est augmentée. On dirait un peintre qui peindrait les furies et qui se ferait peur à lui-même. Voilà par quel mécanisme une colère finit souvent en tempête et pour de faibles causes grossit seulement par l'orage du cœur et des muscles. Il est pourtant clair que le moyen de calmer toute cette agitation n'est pas du tout de penser en historien et de faire la revue des insultes, des griefs et des revendications, car tout cela est faussement éclairé, comme dans un délire. Ici encore, il faut, par réflexion, deviner l'éloquence des passions et refuser d'y croire. Au lieu de dire « ce faux ami m'a toujours méprisé », dire « dans cette agitation, je vois mal, je juge mal. Je ne suis qu'un acteur tragique qui déclame pour lui-même. » Alors, vous verrez le théâtre éteindre ses lumières faute de public. Et les brillants décors ne seront plus que des barbouillages. Sagesse réelle, arme réelle contre la poésie de l'injustice. Hélas, nous sommes conseillés et menés par des moralistes d'occasion qui ne savent que se mettre en délire et donner leur mal à d'autres. 14 mai 1913. Chapitre 57 Du désespoir. Un fripon, disait quelqu'un, ne se tue pas pour si peu. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière, qu'un honnête homme se croit déshonoré, se donne la mort et est pleuré de cela même dont il se croyait méprisé. Je cherche, au sujet de ce drame, qui sera longtemps présent à nos mémoires, ce qui fait que l'homme, qui veut être juste et raisonnable, semble souvent n'avoir dompté certaines passions que pour être attaqué et vaincu par d'autres. Et aussi, par quelle pensée il pourrait combattre le désespoir. Juger d'une situation, poser un problème difficile, en chercher la solution, ne la point trouver, ne savoir à quoi se résoudre, tourner dans les mêmes pensées comme un cheval au manège, cela seul, direz-vous, est un tourment. Et l'intelligence a des pointes aussi pour nous piquer. Non, point du tout. Il faut justement commencer par ne point tomber dans cette erreur-là. Il y a beaucoup de problèmes où l'on ne voit rien et l'on s'en console aisément. Un conseil, un liquidateur, un juge peuvent très bien décider qu'une affaire est sans espérance, ou même ne rien pouvoir décider sans perdre l'appétit ni le sommeil. Ce qui nous blesse dans ces pensées inextricables, ce ne sont pas les pensées inextricables, c'est plutôt une espèce de lutte et de résistance contre cela même. Ou si vous voulez, un désir que les choses ne soient pas comme elles sont. Dans tout mouvement de passion, je crois qu'il y a une résistance contre l'irréparable. Par exemple, si quelqu'un souffre d'aimer une femme sotte ou vaniteuse ou froide, c'est qu'il s'obstine à vouloir qu'elle ne soit pas comme elle est. De même, lorsqu'une ruine est inévitable et qu'on le sait bien, la passion veut espérer et ordonne en quelque sorte à la pensée de refaire encore une fois la même route afin de trouver quelques bifurcations qui conduisent autre part. Mais le chemin est fait. L'on en est justement où l'on en est. Et dans les chemins du temps, on ne peut ni retourner en arrière, ni refaire deux fois la même route. Aussi, je tiens qu'un caractère fort est celui qui se dit à lui-même où il en est, quels sont les faits, quel est au juste l'irréparable, et qui part de là vers l'avenir. Mais ce n'est pas facile, et il faut s'y exercer dans les petites choses, sans quoi la passion sera comme le lion en cage, qui pendant des heures piétine devant la grille, comme s'il espérait toujours. Quand il est à un bout, il n'a pas bien regardé à l'autre. Bref, cette tristesse qui naît de la contemplation du passé ne sert à rien et est même très nuisible parce qu'elle nous fait réfléchir vainement et chercher vainement. Spinoza dit que le repentir est une seconde faute. Mais, dit l'homme triste, s'il a lu Spinoza, je ne puis toujours pas être gai si je suis triste. Cela dépend de mes humeurs, de ma fatigue, de mon âge et du temps qu'il fait. Bon, dites-vous cela à vous-même, dites-vous sérieusement cela, renvoyez la tristesse à ses vraies causes, il me semble que vos lourdes pensées seront chassées par là comme des nuages par le vent. La terre sera chargée de maux, mais le ciel sera clair, c'est toujours autant de gagner. Vous aurez renvoyé la tristesse dans le corps. Vos pensées en seront comme nettoyées. Ou, disons, si vous voulez, que la pensée donne des ailes à la tristesse et en fait un chagrin planant. Tandis que par ma réflexion, si elle vise bien, je casse les ailes et je n'ai plus qu'un chagrin rampant. Il est toujours devant mes pieds, mais il n'est plus devant mes yeux. Seulement, voilà le diable. Nous voulons toujours un chagrin qui vole bien haut. 31 octobre 1911. Chapitre 58. De la pitié. Il y a une bonté qui assombrit la vie, une bonté qui est tristesse, que l'on appelle communément pitié et qui est un des fléaux humains. Il faut voir comment une femme sensible parle à un homme amaigri et qui passe pour tuberculeux. Le regard mouillé, le son de sa voix, les choses qu'on lui dit, tout condamne clairement ce pauvre homme. Mais il ne s'irrite point. Il supporte la pitié d'autrui comme il supporte sa maladie. Ce fut toujours ainsi. Chacun vient lui verser encore un peu de tristesse. Chacun vient lui chanter le même refrain. Cela me crève le cœur de vous voir dans un état pareil. Il y a des gens un peu plus raisonnables et qui retiennent mieux leurs paroles. Ce sont alors des discours toniques Ayez bon courage, le beau temps vous remettra sur pied. » Mais l'air ne va guère avec les paroles. C'est toujours une complainte à faire pleurer. Quand ce ne serait qu'une nuance, le malade la saisira bien. Un regard surpris lui en dira bien plus que toutes les paroles. Comment donc faire? Voici. Il faudrait n'être pas triste. Il faudrait espérer. On ne donne aux gens que l'espoir que l'on a. Il faudrait compter sur la nature, voir l'avenir en beau et croire que la vie triomphera. C'est plus facile qu'on ne croit parce que c'est naturel. Tout vivant croit que la vie triomphera. Sans cela, il mourrait tout de suite. Cette force de vie vous fera bientôt oublier le pauvre homme. Eh bien, c'est cette force de vie qu'il faudrait lui donner. Réellement, il faudrait n'avoir point trop pitié de lui, non pas être dur et insensible, mais faire voir une amitié joyeuse. Nul n'aime inspirer la pitié. Et si un malade voit qu'il n'éteint pas la joie d'un homme bon, le voilà soulevé et réconforté. La confiance est un élixir merveilleux. Nous sommes empoisonnés de religion. Nous sommes habitués à voir des curés qui sont à guetter la faiblesse et la souffrance humaine afin d'achever les mourants d'un coup de sermon qui fera réfléchir les autres. Je hais cette éloquence de croque-mort. Il faut prêcher sur la vie, non sur la mort, répandre l'espoir, non la crainte, et cultiver en commun la joie, vrai trésor humain. C'est le secret des grands sages, et ce sera la lumière de demain. Les passions sont tristes, la haine est triste, la joie tuera les passions et la haine. Mais commençons par nous dire que la tristesse n'est jamais ni noble, ni belle, ni utile. 5 octobre 1909.